voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. Gwenaëlle Briseux est psychologue clinicienne diplômée. Après une expérience institutionnelle variée, elle décide de se spécialiser en EMDR, une technique de thérapie brève qui permet aux patients de digérer leur vécu traumatique. Pour la voix du Kaizen, rencontre avec Gwenaëlle.
Voilà, donc c'est la quatrième saison de l'émission radio La Voix du Kaizen. La thématique cette année, c'est les thérapies alternatives au sens large. Et donc, je fais différentes rencontres autour de tout ce qui est soigné, on va dire, l'être dans sa globalité d'une manière holistique, donc pas seulement le corps, mais aussi l'âme, l'esprit. Je rencontre plein de thérapeutes, donc ça commence avec l'Ayurveda, la naturopathie. Et là, je suis avec Gwenaëlle Briseux, dans un bel appartement parisien, pour parler de quelque chose que je vais découvrir peut-être en même temps que vous ou pas, mais l'EMDR. Donc Gwenaëlle, avant de me parler de l'EMDR, j'ai envie de savoir un petit peu qui tu es, quel est ton univers, ton parcours, et qu'est-ce qui t'a amené à t'interroger sur l'humain et son développement.
J'ai fait des études de psychologie un peu par hasard. J'étais pas très à l'aise avec le métier de psychologue parce que j'avais pas de média entre le patient et moi, sinon la parole, ce qui n'était pas suffisant. Et à un moment donné où je pensais me bifurquer vers tout à fait autre chose comme discipline, j'ai rencontré la méthode EMDR et David Servan-Schreiber. Et très très vite, j'ai pu constater, puisque quand nous sommes formés, nous sommes en trinôme, il y a le thérapeute, le patient et l'observateur, que ça fonctionnait même sur nous, thérapeutes, où nous essayions sur des petits traumatismes, des petites choses, puisque c'était quand même en formation. Et très très vite, tout le monde a constaté que ça marchait incroyablement, un peu trop d'ailleurs, donc on était très surpris au départ, et puis j'ai continué comme ça, et j'étais... Depuis, je suis très fière de dire que je suis psychologue. Et j'étais pas, voilà, c'était pas un métier que j'assumais si bien que ça avant. Donc, je me décris plus comme une technicienne aujourd'hui que comme une psychologue clinicienne, même comme une enquêtrice, parce que je t'expliquerai ça tout à l'heure. Mais le MDR, la façon dont ça se structure, comment c'est fichu cette méthode, ça nous amène vraiment à enquêter, à faire du terrain, à enquêter sur pourquoi ce système de croyance, d'où ça vient, à qui il appartient, quel âge a cette croyance, est-ce qu'elle est bien à vous, est-ce que c'est du transgénérationnel. Donc ça m'a vraiment permis d'explorer un champ extrêmement vaste de l'ici-là maintenant, au passé qui pourrait être traumatique, au passé des parents, des aïeux, et puis de bricoler avec tout ça pour mettre les choses en perspective, qu'elles aient du sens, qu'elles prennent sens pour le patient. Je pense qu'au départ, rien que le fait de conscientiser, de pouvoir conscientiser le pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai autant de difficultés, pourquoi il y a de tels résidus émotionnels traumatiques par rapport à des événements qui sont si loin dans le temps, je pense que déjà, ça permet à l'individu d'avancer dans sa problématique. Et puis après, il y a les mouvements oculaires qui font un travail à la bétonneuse, quoi. Là, on y va sérieusement.
Voilà. T'as dit beaucoup de choses, là. Il y a eu le rapport à la temporalité, un mouvement oculaire. Tu parles des émotions. On va rentrer dans le sujet. L'EMDR, c'est quoi? Quelle est l'histoire de cette méthode, cette technique?
Donc, c'est une technique qui a été inventée par Francine Shapiro, qui est américaine, en 1987, donc elle commence à avoir un peu de bouteille. C'est une femme qui, de l'histoire qui m'a été racontée par Francine, qui se baladait dans un parking de nuit et qui a eu peur, comme on peut tous avoir peur. Le système d'hypervigilance étant activé, il fait nuit, on est seul, on est femme. Et elle a tourné ses yeux de droite à gauche, droite à gauche, et elle a senti dans son corps un apaisement. Et elle s'est intéressée après à cette histoire de mouvement oculaire, droite gauche, pourquoi tout d'un coup, alors que je ressentais une très forte anxiété, pourquoi tout d'un coup, physiologiquement, je ressens un apaisement. Et tout est parti de là. Et voilà comment elle a conçu cette méthode qui consiste à faire bouger les deux hémisphères du cerveau. Donc les yeux, ça peut être les yeux, ça peut être d'autres choses, ça peut être on peut tapoter sur les genoux, il peut y avoir des stimuli auditifs avec les nourrissons, on prend les pieds. Et c'est cette stimulation des deux hémisphères cérébraux qui participerait à la résolution, à l'apaisement de la charge émotionnelle en lien avec l'événement douloureux qui, à chaque fois qu'on y pense, sera vive à notre mémoire comme s'il était extrêmement récent.
Ah, donc un événement douloureux qui a pu apparaître dans l'enfance, quoi. Ça peut être un enfant, un adulte à l'âge de 40 ou 50 ans qui n'a pas réglé un trauma de son enfance. Avec cette méthode, il peut se replonger et essayer de le transmuter et le guérir.
Tout à fait. On va chercher ce petit garçon, cette petite fille, et on va le réparer.
Et le réparer à travers un mouvement oculaire.
Oui, alors ce que je raconte en tout début de prise en charge, quand je reçois un premier patient, c'est je leur dis qu'on est tous la résultante de l'histoire qu'on se raconte, et du coup de notre système de croyance. Si le système de croyance est dysfonctionnel, évidemment, on va pas vivre notre vie de manière heureuse, épanouie, on va être alourdi, on va être empêché, il va y avoir de l'immobilisme.
Pourquoi dysfonctionnel ?
Dysfonctionnel parce que c'est empêchant. C'est-à-dire que si je pense de moi que je suis nulle et que je suis super bien avec l'idée que je suis nulle, je vais pas voir le thérapeute. Si je pense de moi que je suis nulle, que j'ai pas de valeur, ça va induire plein de choses dans ma vie qui vont en plus me confirmer dans le fait que je suis nulle et que j'ai pas de valeur, parce qu'on aime tous ce qu'on connaît. Les schémas connus sont rassurants, même s'ils sont déconnants. Et du coup, je vais attirer à moi des choses qui vont me confirmer dans ce système de croyances dysfonctionnelles. Je vais voir mon thérapeute parce que j'en ai ras-le-bol de me penser nulle. J'aimerais bien en sortir. Je me fais virer toutes les deux secondes d'un boulot. Je garde un petit copain. Et le thérapeute donc, va me dire « Bah oui, mais vous pensez que vous êtes nulle depuis combien de temps ? Quel âge a cette croyance ?» Et je vais lui raconter que je pense que je suis nulle depuis mon entrée, par exemple. Hein, depuis mon entrée au CP, j'étais dyslexique, mais on m'a diagnostiqué dyslexique bien plus tard. Mes parents étaient extrêmement exigeants, extrêmement violentants verbalement, les professeurs également. J'étais stigmatisée dans la classe et paf, 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 j'ai commencé à me penser nulle puisque j'ai été stigmatisée comme ça par l'ensemble de mes pères, de mes parents, enfin, de mes communautés autour de moi. Et du coup, on va aller régler le problème là où il s'origine, à mes 6 ans. Et puis après, évidemment, il y aura plein d'autres événements. Si je reçois une femme qui a 40, 50 ans, plein d'autres événements qui vont avoir réactualisé cette croyance qui va être devenue la croyance de la personne que je recevrai. Et elle peut me dire aussi, mais je suis nulle depuis que je suis née, je suis nulle. Et auquel cas, on sera sur du transgénérationnel.
Donc cette notion de transgénérationnel, c'est quoi ?
C'est l'idée que on porte tous l'histoire de nos aïeux, de nos parents. Il y a des choses qui passent dans les tuyaux. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions qui touchent de ce sujet, qui disent que même dans la structure de l'ADN, on peut retrouver des cicatrices émotionnelles ayant appartenu à une, deux, trois générations, peut-être plus même. Donc ça, on le savait déjà, nous, en tant que thérapeutes qui travaillons avec l'humain, on savait qu'on hérite du bordel, si je parle un peu familièrement de nos parents, du bordel qui n'a pas été réglé en amont. Et du coup, la question qui est très intéressante, c'est de dire, mais quel âge a cette croyance ? Vous pensez que vous êtes nul depuis quand ? Vous pensez que vous êtes coupable depuis quand ? À quel âge ? C'est là où on arrive aussi à travailler avec les aïeux.
Comment on s'y prend ? Bon, il y a différentes méthodes. Là, on parle de MDR, mais je sais que les constellations familiales touchent aussi à ces casseroles émotionnelles qu'on traîne depuis plusieurs générations.
Oui, mais je crois que quand on fait de l'EMDR, on touche à tout. parce que le système de croyance, c'est nous. Je ne sais pas si je pourrais évoquer une constellation aussi par rapport à toutes nos croyances, mais nous sommes la résultante de nos croyances. Et du coup, on va partout, on va fouiller, même dans le passé lointain. Et en écrivant des lettres à des aïeux qui ont été maltraités, et on porte leur tristesse. Au début de mes prises en charge de MDR, j'ai reçu deux patientes qui, sur papier, je me souviens surtout d'une, mais je sais qu'il y en a eu deux, une qui était journaliste, une belle nénette, qui avait tout sur papier pour être bien, et qui portait une tristesse, mais une détresse, mais quelque chose d'extrêmement conséquent. Et je ne travaillais pas encore sur le transgénérationnel, enfin, je n'avais pas encore tout compris. Et je lui ai proposé, et j'ai compris à un moment donné qu'elle portait l'histoire de ses grands-parents qui avaient été déportés dans des camps de concentration, la Shoah, etc. Et je lui ai demandé d'écrire à ses aïeux. et d'aller déposer une lettre, ou d'aller l'enterrer, de faire pousser un végétal, enfin dessus, il y a plein de façons pour essayer de transformer quelque chose de lourd, de négatif, en quelque chose de plus joli, de plus vivant et de plus poétique. Et elle s'est réveillée à la vie, elle s'est... Donc là, dans ce cas présent, elle portait vraiment quelque chose qui ne lui appartenait pas et qui était passé dans les tuyaux.
Donc se libérer de son passé à travers ce genre de rituel, parce qu'on pourrait parler de rituel aussi, que d'écrire une lettre, la brûler pour couper le lien, ou imaginer, faire de la visualisation. Donc tout ça, je l'entends, mais je comprends toujours pas ce que c'est que l'EMDR. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Comment?
L'EMDR, c'est déjà le EMDR signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c'est du retraitement de l'information traumatique.
Donc, identifier le traumatisme, déprogrammer cette croyance pour en mettre une autre, si je simplifie, ce serait quelque chose comme ça?
Reprogrammer, c'est bien, c'est un bon mot. On pense qu'on a tous des mécanismes d'auto-guérison normalement opérants, en chacun de nous. On vit tous des choses douloureuses, passer 2 nuits, 3 nuits, 5 nuits dessus, on voit que la charge émotionnelle de l'événement douloureux se distancie de nous. Sauf quand il y a un bug. Quand il y a ce bug, l'événement douloureux se transforme en traumatisme. Et c'est là où nous intervenons. Pourquoi il se transforme en traumatisme? Parce qu'à l'événement douloureux vient se greffer une croyance négative. Une fille, une jeune femme qui est violée, elle a, je pense, peut-être que je vais faire grincer des dents, mais les moyens de se guérir. Si le viol n'a pas été fait en toute impunité, on retrouve le gars, les policiers font leur job, les parents sont extrêmement présents, les thérapeutes sont là, tout plein de choses se mettent en place pour que la victime, déjà, ait ce statut de victime, ne se sente pas isolée, se sente reconnue, elle va guérir. Si la personne violée pense d'elle-même que c'est de sa faute, même si intellectuellement et rationnellement, elle sait que c'est pas de sa faute, mais si elle se dit à ce moment-là, c'est de ma faute, au moment du viol, parce que j'ai pas crié, parce que je me suis laissée subir, parce que même mon corps a pris du plaisir, je comprends même pas comment c'est possible, on sait que ça arrive, parce que x, y, z raison, le c'est de ma faute, vient faire bugger les mécanismes d'auto-guérison normalement opérants. Et c'est là où ça mouline dans le cerveau droit. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et il n'y a absolument pas possibilité de résolution du problème. Et du coup, elle est tout le temps dans cette idée que c'est de sa faute. Et le c'est de ma faute va venir alimenter plein d'autres champs, plein d'autres pans de sa vie, et on va le retrouver un peu partout. Donc l'EMDR, quand on a identifié le traumatisme, l'événement douloureux qui n'a pas pu se digérer, parce qu'il est resté coincé dans le cerveau émotionnel, droit, limbique, reptilien, du fait de cette croyance dysfonctionnelle, c'est de ma faute. On va essayer d'ouvrir une porte, la porte de... je vais demander à ma patiente quelle est l'image la pire, même si elle est reconstruite, même si elle est fantasmée. Donc on va vraiment aller dans le souvenir, dans l'image du souvenir. Moi, elle va me prêter ces images, donc je vais vraiment l'accompagner avec... je vais être dedans, avec les mots « c'est de ma faute », et on va faire bouger les yeux. Et à partir de là, il va y avoir plein d'associations qui vont se mettre en place, ou pas. Il peut y avoir des manifestations dans le corps, il peut y avoir plein de patientes qui ont éructé, qui ont eu très froid, qui ont eu des vertiges, qui ont eu plein de manifestations diverses et variées. Mais c'est souvent des associations, sauf quand c'est... Après, j'en parlerai plus tard. Quand ça s'est arrivé quand on était très, très petit, on est plus sur un matériel archaïque, donc c'est dans le corps que ça se joue. Si le viol est arrivé quand la personne pouvait élaborer intellectuellement, on est plus sur une représentation d'image mentale. Et donc, elle va revivre le moment du viol, donc ça ne va pas être un moment facile. Donc l'idée, c'est qu'il y ait quand même une très bonne alliance thérapeutique, que je sois près d'elle. Et à force de faire bouger les yeux, d'avoir des associations, on va désensibiliser ce canal de la peur qui a conduit à un gel complet du corps, de l'émotionnel sur le moment. Et la mise en place de ce système de croyance, c'est de ma faute. Je me suis laissée subir. Et au fur et à mesure, ça peut aller assez vite. Si c'est isolé, ça va très vite. Si c'est juste un événement comme ça isolé, s'il y a d'autres choses qui se sont passées en amont ou après l'événement qu'on est en train de traiter, ça prend un petit peu plus de temps. Mais on va désensibiliser ce canal de « c'est de ma faute » et très vite, la patiente va se penser elle-même plus du tout responsable. Mais c'est pas du tout par un jeu de suggestion. C'est pas moi qui vais l'amener à penser autre chose que c'est de ma faute. Et le protocole au début, c'est je lui demande qu'est-ce que ça dit de vous de négatif. Donc c'est le c'est de ma faute qui va venir dans ce cas présent. Qu'est-ce que vous aimeriez penser de vous plutôt que c'est de ma faute? C'est presque une question impossible pour eux parce qu'ils pensent tellement que c'est de leur faute. Et elle va quand même me dire bah, que c'est pas de ma faute, que j'ai fait ce que j'ai pu pour me sauver la vie. Et au final, au bout d'une séance, deux séances, peut-être trois, elle va penser réellement, mais dans son corps, dans sa tête, elle va être alignée avec cette idée que c'est pas de sa faute. Et ça va faire bouger énormément de choses alentour. C'est-à-dire que c'est de ma faute s'il est là dans ce cas présent, ça veut dire qu'il a été là en amont, avant. On se construit pas sur cette thématique comme ça. Et ça va la libérer d'un point, ça va libérer son énergie de vie. Et on participe en travaillant sur le traumatisme, en désensibilisant la charge traumatique associée au souvenir, à libérer l'héros, le fameux héros, la pulsion de vie. Et ce sont des gens qui retrouvent une envie de vivre. Et je trouve que accompagner ça, c'est purement magique. Et souvent, je dis même à mes enfants, c'est moi qui devrais payer mes patients, parce qu'on assiste vraiment à des choses qui sont assez sublimes, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Je comprends tout ce que tu dis, ça me fait penser aussi à d'autres outils qui sont utilisés, l'hypnose, la sophrologie, mais là le mouvement des yeux, je comprends toujours pas. Reconditionner quelque part ou accepter, faire ce travail d'acceptation, peut-être même de pardon, tout ça tu peux le faire en psychologie avec différents outils, mais pourquoi le mouvement des yeux
Je ne l'ai peut-être pas dit, mais quand la croyance négative vient se greffer au souvenir, et du coup, ça fait bugger le système d'auto-guérison, le cerveau gauche est éteint. C'est lui c'est le cerveau préfrontal, cognitif, qui est capable de retraiter l'information et de la digérer.
Réactiver ce souvenir à travers ce mouvement frontal.
C'est le rallumer. C'est-à-dire, en faisant bouger les yeux, j'oblige le cerveau gauche, par rapport au souvenir et à l'émotion du souvenir qu'on va réactualiser dans ce bureau, à se rallumer et à faire son job qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a bugué. Du fait de cette croyance dysfonctionnelle. On parle de commotion psychique. Quand le gauche, par exemple, cette fille qui est violée, elle va, la peur, on sait que, alors c'est, moi j'aime beaucoup faire des schémas à mes patients. Je marque la peur, ça induit 3 F, on peut avoir comme réaction le fight, le flight, on se bagarre, le flight, on fuit, et le freeze, on se gèle. Et donc, c'est aussi, le MDR, c'est vraiment un outil qui intervient une fois qu'on a fait quand même beaucoup de choses. Il y a de la psychoéducation, comme là, ce que je suis en train de raconter, que c'est normal de se geler. C'est une réaction humaine, reptilienne à la peur. Et que du coup, évidemment, je me gèle, je me fais violer, je me gèle, pouf, je vais penser que c'est de ma faute. Il y a du trauma. Et là, les mouvements oculaires interviennent pour dégeler le cerveau gauche, pour sortir de cette commotion psychique, le rallumer et faire en sorte qu'il fasse son job. Et du coup, on guérit comme on guérit d'un événement douloureux lambda.
Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ce qu'on est en train de dire, là, on parle pas du tout du corps physique. C'est pas quand on a un rhume qu'on va venir te voir. C'est vraiment quand on a un traumatisme lié à un événement, lié à cette vie ou même à une vie passée de quelqu'un de ta famille. Donc, c'est vraiment le côté émotionnel.
Ah ben, on peut pas faire sans le corps, je crois. L'émotionnel a un impact direct sur le corps. Et après, il y a d'autres outils comme le décodage biologique. On peut aussi, il y a des gens qui s'intéressent à savoir ce que raconte une maladie. Et donc, c'est plein d'outils différents. Mais c'est surtout le MDR intervient quand il y a un émotionnel qui ne se régule pas pour permettre au patient de pouvoir le réguler. Donc après, on peut parler de choses douloureuses de manière complètement apaisée. Si on est apaisé quand on parle de choses douloureuses avec lesquelles on cohabite depuis des années, il y a évidemment un retentissement dans le corps. Donc on travaille aussi bien sur la psyché que sur le corps, mais les deux font partie intégrante du job. On ne peut pas faire sans. D'ailleurs, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, quand on travaille sur des mémoires archaïques, sur des personnes adultes qui viennent me voir, mais qui ont subi des traumatismes enfants autour de 4, 3, 4, 5, 6 ans, on sait qu'à cet âge-là, il y a un défaut d'élaboration, de mentalisation. On ne mentalise pas, on n'élabore pas comme on est en train de le faire tous les deux. Parce qu'on n'est pas en mesure de se raconter ce qu'on est en train de vivre. Donc on n'est pas en mesure de l'engrammer. De ce fait-là, c'est le corps qui prend. Et c'est vraiment le corps qui devient messager du trauma. Et il y a des gens qui vivent très très bien dans un déni, dans un refoulement, dans un je sais pas quoi, des années durant, et tout d'un coup ça pète au niveau du corps. Et finalement c'est le corps qui les amène ici, dans ce bureau. Et parce que, on va parler de petites choses, enfin petites choses très invalidantes, mais un psoriasis, des choses plus graves, une sclérose en plaques, des maladies X, on interroge ce que raconte la maladie. Alors, on imagine qu'on est dans une bande dessinée, la maladie, c'est un petit bonhomme, elle a une voix, on lui prête une voix, elle a quelque chose à raconter, on va écouter son histoire. Et l'histoire qu'elle raconte va évidemment raconter un trauma.
Et mais la personne n'est pas forcément consciente, la petite voix, donc la voix qui va raconter l'histoire, c'est à toi après de décrypter, de retrouver quel est le trauma, la racine du mal.
Bien sûr, on les aide, oui. Mais bon, psoriasis, c'est la peau, c'est quand même, quand on a des croûtes de partout, qu'on fait de la peau partout, c'est quand même quelque chose qui écœure les autres, qui met à distance. Donc pourquoi ce besoin de mettre à distance? Pourquoi la sclérose en plaques, c'est quelque chose d'invalidant? On perd de la mobilité, on perd... Et après, il y a plein d'ouvrages qui racontent ce que ça veut dire. On y croit, on n'y croit pas, limite, c'est pas très important, mais ça nous donne quand même une base pour essayer, pas de disserter, mais de raconter ce que le mal raconte, ce que le mal a dit, et de voir ce qui se joue derrière. Et on fait quand même des choses assez, assez impressionnantes.
Qui c'est qui vient te voir? Comment va se passer une consultation quand un patient arrive pour la première fois? Quelle est la problématique qu'il va poser sur la table? Il ne le sait pas toujours, finalement.
C'est toujours. Bah, il sait qu'il y a un mal-être.
Donc ça peut être « je me sens pas heureux », mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. « Je me sens triste ou mélancolique », sans avoir réussi à identifier l'origine de cette mélancolie qui est peut-être présente depuis plusieurs années.
Alors, heureusement que ce n'est pas tous les jours non plus, parce que ce sont des patients qui sont plus compliqués que les autres. Hein. Ils posent juste « je suis mélancolique, je ne sais pas pourquoi ». Donc on va élaborer avec eux, on va chercher et là on prête beaucoup aussi de ce qu'on est, on va théâtraliser, on va essayer de voir ce que ça peut raconter et on va trouver à un moment donné, c'est là où on est des enquêteurs et c'est ça qui est, moi personnellement c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est d'enquêter vraiment et on voit qu'il y a du déterminisme partout quoi. C'est assez effrayant et c'est assez excitant de retrouver tous les morceaux du puzzle, de les agencer et que ça prenne forme et de donner ça à la personne qui vient, de leur dire, ils se disent tout seuls, hein, on aide, on est là juste pour accompagner, mais mon son de bois, c'est pour ça que j'en suis là, voilà ce que je porte, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que ça, ensemble. Je parle aussi souvent d'équations mathématiques, on pose des équations. Quel est le début de l'équation? Quel est le début de l'histoire qui a amené telle résultante? Qui a amené le fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis nulle? Il y a toute une équation en amont. Et donc, on fait des maths. Enfin bon, après, et puis on fait des dessins, et puis on fait écrire. On fait beaucoup, beaucoup de MDR. Beaucoup, beaucoup.
Et le MDR aujourd'hui en France?
C'est une méthode qui fonctionne. Donc, c'est... En tant que thérapeute, dire ça fonctionne, c'est quand même... on n'ose pas dire un truc pareil. Ça fonctionne. Donc évidemment que ça marche, les gens...
Les gens se forment où et comment?
L'association EMDR France forme, et puis il y a d'autres associations annexes qui commencent. Il y a aussi des diplômes universitaires, des DU, je ne sais plus dans quelle université, mais qui forment des infirmières, des médecins, des... Mais les prérequis, c'est 5 ans de cabinet, il faut être psychologue ou psychanalyste ou psychiatre. Je sais pas, mais ça fait longtemps que je suis sortie de ce, même si je suis formée en permanence, mais ça fait longtemps que je suis sortie des débuts, donc je sais plus trop comment ça se joue. On vient pas la fleur au fusil en disant j'ai envie de me former à l'EMDR. Non, et puis il faut être solide quand même, hein, parce que après avec une certaine expertise, parce que plus on va dans le temps, plus on se forme, plus on a de cas divers et variés, on peut avoir des cas. Moi, j'ai eu un cas, donc, quand j'ai commencé le MDR de psychose, une femme qui avait été violée par son père, attachée à un radiateur. J'étais toute jeune, je dis c'est quoi ce bordel? Elle enlevait sa main comme si c'était un gant en disant c'est pas ma main. Donc ça c'était vraiment une dissociation totale. Et donc je l'ai fait se déchausser, je lui ai dit de sentir le parquet sous ses pieds pour qu'elle revienne dans l'ici et maintenant. Donc il y a plein de techniques qu'on apprend quand même, mais faut quand même être faut être un petit peu solide, il faut pouvoir gérer aussi l'émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel qu'on prend tous les jours. C'est euh, ce sont des choses extrêmement violentes, de perdre un bébé, de perdre sa femme avec laquelle on vit depuis toujours, on n'est plus rien sans, de perdre, enfin bon, le Bataclan, j'ai eu 6 personnes du Bataclan et du, ce sont des choses quand même qui sont assez violentes, qui nous sont renvoyées tous les jours. Moi, j'aime bien quand c'est compliqué. J'aime bien cette question d'investiguer et d'enquêter. Ouais, ça me passionne. Parce qu'au bout d'un moment, quand on commence à connaître son métier, il y a aussi l'usure. Il y a l'usure parce qu'il y a de l'émotionnel qui est brassé en permanence. Donc, faut aussi renouveler ses propres énergies pour être là face à l'autre et être là bien face à l'autre, pouvoir le tenir, le contenir. Moi, je leur laisse toujours, ils ont mon numéro de téléphone, mes patientes peuvent m'appeler, m'envoyer un texto, je les rappelle dès que je peux si ça va vraiment pas. Donc, il y a quand même quelque chose pour, il y a un cadre qui est offert, c'est pas rien. Mais c'est chouette.
Gwenaëlle, merci.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.